Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui est Jacques Nikonoff, professeur associé à l'Université de Paris 8. Jacques Nikonoff, vous nous avez déjà fait le plaisir de venir faire deux émissions avec nous et donc vous venez pour la troisième et dernière émission sur la bourse. La dernière fois, finalement, j'étais partie pas très optimiste sur la bourse. J'étais pas vraiment prête à y mettre mes économies. Et pourtant, il y a un truc qui m'interroge, c'est que quand j'écoute, alors là, cette fois, non seulement les discours des journalistes économiques, notamment à la radio ou que je lis les journaux, mais aussi quand j'écoute les discours des politiques, et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, on est sans arrêt en train de me dire, oulala, mais faut quand même faire attention, telle et telle mesure, ça va faire que les investisseurs vont s'en aller, et on est sans arrêt en train de menacer, on peut dire la population française, je crois, du départ des investisseurs, mais j'ai jamais trop bien compris, déjà, un, comment ils peuvent s'en aller, parce que pour s'en aller, on l'a vu, hein, ils sont détenteurs d'actions, donc encore faudrait-il qu'ils les vendent. Et puis, s'ils s'en vont, quel est le problème ?
C'est un bon résumé. Mais d'abord, la crainte du départ des investisseurs témoigne de l'évolution très particulière de la bourse, parce que finalement, quand quelqu'un devient actionnaire d'une entreprise, logiquement, c'est parce qu'il croit au développement de l'entreprise. Et donc, il a vocation à accompagner l'entreprise, à y rester un certain temps. C'est ce qui se passait jusqu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les investisseurs restent en moyenne 6 mois dans une entreprise.
Diable.
6 mois. C'est-à-dire que ça n'est plus du financement de l'économie. Ça correspond à ce que nous disions la semaine dernière. Mais qu'il s'agit d'un seul jeu boursier. On s'achète, on se revend des actions en espérant en tirer une plus-value. C'est là qu'il faut faire la distinction entre dividende et plus-value. Le dividende, c'est ce qui est payé tous les ans aux actionnaires qui détiennent donc les actions des entreprises. Ça rémunère l'actionnaire, c'est la rémunération normale. La plus-value, c'est lorsque l'on revend une action à quelqu'un d'autre en réalisant un profit. Ça s'appelle la plus-value. Mais quand on ne conserve une action en moyenne que 6 mois, ça veut dire qu'on ne touche pas de dividendes, puisque par définition, les dividendes sont versés annuellement. Donc ce qui intéresse les investisseurs, ce ne sont plus les dividendes, puisqu'ils ne restent pas dans l'entreprise. Ce sont les plus-values. Et donc c'est du mécanisme boursier pur. On n'est plus du tout dans l'économie et le financement de l'économie et des entreprises. Donc ça, c'est la première chose à noter. Dès lors que quelque chose pourrait remettre en cause la possibilité de réaliser ses plus-values, des investisseurs peuvent être amenés à partir. Alors, vous l'avez souligné, le départ des investisseurs, pourquoi des investisseurs décideraient, par exemple, de quitter la France, sachant que aujourd'hui en France, car en Europe d'ailleurs, 40% des actions sont détenues par des fonds, notamment les fonds de pension anglo-saxons. Ces fonds de pension anglo-saxons peuvent décider de partir, de se rapatrier aux États-Unis, pour différentes raisons. Première raison, il peut y avoir de l'inflation. Il n'y a rien de pire que l'inflation pour ceux qui ont de l'argent. Parce que ça réduit le rendement, évidemment. Si vous avez un rendement du capital qui fait 15% et que vous avez une inflation de 10%, l'intérêt réel que vous avez gagné, c'est la différence, c'est-à-dire 5. Et donc plus il y a de l'inflation, plus ça réduit le rendement du capital. Donc si, c'est pour ça d'ailleurs que depuis une vingtaine d'années, il y a ce discours obsessionnel contre l'inflation, puisque ça réduit le rendement du capital. Donc s'il y a des menaces inflationnistes, ça peut faire peur aux détenteurs de capitaux qui iront investir dans des pays où il n'y a pas d'inflation. Il peut y avoir des risques sociaux, il peut y avoir du ralentissement économique, il peut y avoir différentes raisons, comme celles que je viens d'indiquer, qui poussent les investisseurs à partir. Alors partir, ça veut dire quoi ? Partir, ça veut dire vendre. Alors, c'est votre question, pourquoi certains considèrent qu'il faut partir parce qu'il y a des risques, et au même moment, pourquoi d'autres vont acheter ? Ils doivent analyser les risques de la même manière. Eh bien non, justement, parce que parmi les agents économiques, il y a, je ne dirais pas toujours, mais très souvent, des anticipations différentes. Anticipations différentes, c'est-à-dire certains considèrent que la situation va se dégrader, et d'autres considèrent que, après s'être dégradée, elle va s'améliorer. Et ceux qui vendent vont trouver, sauf en cas de crack, il y a crack parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, c'est là que ça baisse, et ceux qui achètent sont ceux qui se disent, eh bien, ça vaut le coup d'acheter maintenant parce que les actions sont pas chères, et elles feront, tôt ou tard, elles vont remonter. Donc je préfère acheter à la baisse. D'ailleurs, on achète toujours à la baisse.
De préférence.
Hein, de préférence. Bon, et donc c'est le raisonnement que tiennent d'autres investisseurs. Et donc l'un dans l'autre, ça fonctionne comme cela. Le problème que ça pose, c'est évidemment pour les gens qui vendent à perte. Mais ils n'avaient qu'à pas acheter d'actions.
Mais si... Je vois toujours pas pourquoi les politiques... qu'est-ce que ça peut faire aux politiques qu'il y ait des gens qui perdent de l'argent en bourse ? Parce que finalement, si le problème, c'est qu'éventuellement, les investisseurs vont vendre... vont faire des pertes, qu'est-ce que ça... En quoi ça peut intéresser les politiques d'autant plus que la dernière fois, on avait vu qu'on ne pouvait pas forcément dire que la bourse finançait réellement les entreprises.
Ben, d'abord, je ne suis pas sûr que ceux que vous appelez les politiques, je ne sais pas à qui vous pensez, est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que c'est les partis politiques, est-ce que c'est les députés, enfin, bon, disons, les responsables de partis politiques et les gouvernements en général, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent bien tout cela. Je ne suis pas persuadé. Oui. Ils ont fait suffisamment d'erreurs pour justifier ce point de vue, à la fois d'erreurs et en même temps une volonté de financiariser l'économie. Parce que quand on parlait tout à l'heure, plus exactement une dernière émission, de la libéralisation des économies, c'est une série de décisions politiques. Par exemple, la fin du contrôle des mouvements de capitaux, c'est quand même une décision politique qui a été prise. Mmh. Donc il ne faut pas que les gens qui prennent des décisions s'étonnent des résultats de leurs décisions quand même. Ce serait paradoxal. Alors, donc ils ont peur des décisions qu'ils ont prises. Hein, quand ils disent s'émouvoir de du départ possible des investisseurs, ils craignent donc les effets des décisions qu'ils ont prises. Ben, ils n'avaient qu'à pas prendre ces décisions. Ou alors ils n'ont qu'à prendre de nouvelles décisions. Mais d'une part, donc, je ne suis pas sûr que tout cela soit très bien compris, mais j'ajouterai un deuxième argument. Les partis de droite qui défendent les catégories privilégiées ont tout à fait intérêt à dénoncer le départ des investisseurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que leur clientèle électorale va perdre du revenu, tout simplement.
Mais l'embêtant, c'est que ces derniers temps, je l'entends de la bouche de politiques de gauche.
Alors ça, c'est effectivement surprenant. C'est effectivement surprenant. Il faudrait leur poser la question. Il faudrait inviter quelqu'un de gauche qui raisonne comme ça pour savoir exactement ce qu'il a en tête quand il dit cela. Personnellement, je ne comprends pas ce qu'il faut le dire.
Bon, bah, je m'y mettrai la prochaine fois, mais en attendant, on va écouter La Môme de Jean Ferrat. Aligre FM 93.1, des sous et des hommes avec Jacques Nikonoff qui nous parle de la bourse. Il y a toujours quelque chose que je comprends pas trop bien finalement. Enfin, tout à l'heure, par exemple, j'écoutais la radio, pour tout vous dire, une autre radio Caligre FM, ce qui est mal, je sais. Mais il n'empêche, c'était quand même intéressant, parce que j'ai pris une émission en cours de route, donc j'ai pas tout bien saisi complètement, mais la dame qui parlait dans le poste disait que, quasiment nous tensait un petit peu en nous disant, mais la bourse c'est fait pour rester longtemps, parce que vous participez à la construction d'une entreprise. Moi, ça m'a un peu étonné parce que j'avais fini par comprendre que c'était pas ça la bourse. Et vous, Jacques Nikovnov, vous en pensez quoi ?
À l'origine, les bourses, elles servaient à cela. Elles servaient à rapprocher les agents économiques qui ont de l'épargne en excès et les ménages et les entreprises qui, elles, ont des besoins d'épargne. Donc, à l'origine, ça servait à ça. Et donc, les actionnaires restaient des années et des années actionnaires d'une entreprise, parce qu'ils croyaient au projet de l'entreprise. Quand on est actionnaire, on croit à l'entreprise dans laquelle on investit et on en attend un dividende. On ne sautille pas d'une entreprise à l'autre. Tout cela ne fonctionne, les bourses ne fonctionnent plus comme cela. Je vous indiquais que la durée moyenne de maintien dans une entreprise aujourd'hui est de 6 mois. Alors, mais on ne peut pas dire, c'est un mythe, de dire que la bourse finance l'économie. Quand vous restez 6 mois dans une entreprise comme actionnaire, ça veut dire qu'on a acheté des actions à d'autres actionnaires. Et donc ça ne touche pas l'entreprise. Mmh. Et même ça déstabilise les entreprises. Parce que les entreprises qui voient leur actionnariat changer sans arrêt avec des évolutions du cours de bourse en yo-yo, tout cela n'est pas bon pour les entreprises. Donc ça déstabilise les entreprises. Un véritable actionnaire est quelqu'un qui reste dans l'entreprise. D'ailleurs, admettons par hypothèse qu'on interdise la vente d'actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté, vous ne pouvez plus vendre. Que se passerait-il ? Eh bien, il n'y aurait plus de prix. Il n'y aurait plus de prix, c'est-à-dire que on ne pourrait pas... il n'y aurait qu'un prix, c'est lorsque l'entreprise émet de nouvelles actions. Et les actionnaires resteraient dans l'entreprise. Mmh. Il n'y aurait plus de spéculation. Donc, je pense qu'il faut aller vers des mesures réglementaires qui obligent les actionnaires à rester un certain temps dans les entreprises, comme actionnaire.
C'est ce que je lisais récemment dans Le Monde, c'était une proposition d'Isaac Joshua.
Oui, c'est que Keynes déjà et d'autres, il y a plus de 50 ans, même 70 ans, même plus, tout ça est un vieux débat qui porte sur les moyens de financer réellement les entreprises, d'éviter la spéculation et d'éviter de connaître l'absurdité de la situation dans laquelle nous sommes. Donc il faut renchérir le coût des transactions. La taxe Tobin, par exemple, est intéressante parce que elle se préoccupe de cette question pour les devises. Il faut faire la même chose pour les actions, c'est-à-dire que l'actionnaire qui reste insuffisamment longtemps, alors je ne sais pas, peut-être 5 ans, celui qui veut sortir avant un délai de 5 ans devrait faire l'objet de pénalités extrêmement lourdes qui l'empêchent de spéculer. On comprend que quelqu'un qui prête de l'argent à une entreprise ait besoin de récupérer sa mise pour une raison ou une autre, mais si c'est dans un but spéculatif, il faut l'interdire. Et donc on peut parfaitement le faire. D'ailleurs, je signale que tous les dispositifs d'épargne mis en place par les pouvoirs publics dans le monde entier imposent un certain délai de conservation des titres avant de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Si on prend l'exemple de l'épargne salariale, que je condamne, je suis contre l'épargne salariale dans ses formes actuelles, eh bien, il faut conserver l'épargne 5 ans avant de pouvoir en bénéficier. Alors pourquoi on impose aux salariés ces mesures, qui sont des mesures saines, alors qu'on laisse faire les grands fonds spéculatifs? Eh bien parce que les politiques, comme vous disiez tout à l'heure, soit ne comprennent pas ce dont je doute, soit laissent faire ce qui est plutôt mon hypothèse.
Et pourquoi pourquoi y a-t-il eu cette évolution qui fait que, tout à l'heure vous avez dit, avant, effectivement, les investisseurs restaient et maintenant ils sautillent d'une action vers l'autre. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de comportement des personnes
c'est
qui avaient...
C'est la libéralisation financière et le fait que le système anglo-saxon de retraite et d'épargne a généré de plus en plus d'épargne qui s'investit en actions. La raison fondamentale, elle est là. Ça n'est pas un problème économique, c'est un problème politique. C'est même un problème de politique intérieure américaine. C'est le système de retraite américain, fonds de pension, qui génère tous les mois des sommes énormes qui proviennent des cotisations retraite des employeurs et des salariés qui cherchent à s'investir en actions. Et dès lors que vous avez ces flux financiers considérables qui arrivent chaque mois, prélevés sur les salaires et qui cherchent à acheter des actions, ça pousse le prix des actions à la hausse et donc ça crée une situation dans laquelle vous avez un rendement des actions plus élevé que le rendement de l'économie, que la croissance de l'économie. Et donc ça crée des vocations et d'autres acteurs économiques se disent, après tout, au lieu de se faire suer à créer des entreprises, à produire, etc., je vais simplement me spécialiser dans le commerce des titres financiers et donc les actions de modalités de financement des entreprises qu'elles étaient à l'origine deviennent des marchandises comme les autres qui s'achètent et se vendent pour elles-mêmes indépendamment de l'entreprise d'où elles viennent. Donc c'est une dérive, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Les causes sont connues, c'est le système américain de fonds de pension. Il est parfaitement possible de stopper cette dérive qui nuit à la croissance, qui nuit aux entreprises, qui nuit à l'emploi, sauf que les gouvernements successifs non seulement n'ont rien fait pour s'opposer à ces dérives, mais les ont encouragées et continuent d'ailleurs de les encourager.
Je vais déprimer complètement. On va écouter Honte à qui peut chanter de Maxime Le Forestier en attendant que je retrouve le moral. Aligre FM donc toujours et toujours avec Jacques Nikonoff. Écoutez, après votre dernière intervention, j'étais vraiment surprise parce que finalement vous aviez l'air de dire, sauf si j'ai pas très bien compris, que finalement l'ensemble du système international boursier finalement profitait aux USA qui avaient énormément de fonds à placer. Mais qu'est-ce qui peut faire que des gouvernements français ou des partis politiques français, et en particulier éventuellement de gauche, puissent alors soit se laisser embobiner dans la magouille, soit choisir d'y contribuer délibérément?
Il y a deux explications à cela. La première explication remonte aux années 1982-1983. Que s'est-il passé lors de ces années-là? En mai 81, la gauche gagne les élections présidentielles. François Mitterrand est élu président de la République. Il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. La gauche décide un plan de relance de l'économie, une politique keynésienne. Augmente les salaires, réduit l'âge de la retraite, réduit le temps de travail, une excellente politique, très très bonne politique de changement qui se met en place en 1981-82. Ce qui n'était pas envisagé, compris déjà par la gauche, c'est que cette augmentation du pouvoir d'achat a provoqué une augmentation des importations. La production intérieure n'a pas suffi. D'ailleurs, le patronat a traîné des pieds pour investir et la gauche n'a pas été assez, incitative, pour utiliser des mots modérés, pour que les entreprises investissent. Et donc, ce surplus de pouvoir d'achat a provoqué l'achat de tas de choses à l'étranger. Ce n'est pas un mal en soi, sauf que ça a déséquilibré la balance extérieure. Autrement dit, beaucoup de francs sont allés à l'étranger, ont été détenus par des pays étrangers, et donc la France s'est endettée vis-à-vis de l'étranger. Dans cette situation de l'époque, le fait que des francs soient détenus à l'étranger fragilise la monnaie. Si ça fragilise la monnaie, ça joue sur la parité de change, ça joue sur l'inflation, ça joue sur ces paramètres économiques. Et donc, le choix, il y a eu une situation de déséquilibre qui ne pouvait pas durer. Le choix qui a été fait par Jacques Delors, qui était alors ministre des Finances, a été l'austérité en 82-83. C'est le plan d'austérité.
Ça me rappelle quelque chose.
De Jacques Delors, qui, au lieu de tenir compte de cette nouvelle réalité internationale et de mettre en place, de s'opposer au libre-échangisme finalement, c'est-à-dire de mettre en place un système de coopération internationale qui permette un équilibre des échanges. Eh bien, le choix a été fait de préserver le libre-échangisme, et pour le préserver, il fallait ralentir la croissance. Et donc, il y a eu une volonté délibérée de ralentir la croissance, de freiner le pouvoir d'achat, de faire remonter le chômage pour réduire le déficit extérieur et éviter que la France s'endette, que l'inflation reparte et qu'il y ait des problèmes avec la monnaie. Et donc, c'est le choix du combat contre l'inflation. Le combat contre l'inflation a été le prétexte pour mener des politiques d'austérité. Comme la France était endettée réellement, c'est à cette époque-là que la gauche a décidé d'ouvrir les marchés financiers aux investisseurs étrangers, puisque il y avait des départs de capitaux français liés aux achats provoqués par l'augmentation du pouvoir d'achat. Il fallait réduire ce déficit en faisant en sorte que des actions françaises et des obligations françaises soient achetées par des étrangers pour compenser, pour équilibrer la balance commerciale, la balance des échanges extérieurs. Balance des échanges extérieurs. Et non pas seulement la balance commerciale. Et donc, je me rappelle très bien, étant aux États-Unis, quelques années après, vendre des obligations d'État aux investisseurs américains. Tout a été fait pour attirer les investisseurs étrangers en France, soit en achetant des obligations d'État, soit en achetant des actions, notamment pour les privatisations. Les privatisations qui ont suivi ont eu en partie cet objectif, attirer des capitaux. Donc l'objectif à l'époque était d'attirer les capitaux, et d'ailleurs je note aujourd'hui que tout le monde s'inquiète qu'il y en ait trop. Mais ceux qui ont décidé de les faire venir oublient de dire que ce sont eux qui ont provoqué la situation. Et donc, la gauche est restée avec cet échec en tête et n'a pas analysé l'évolution de la situation et considère donc qu'il faut toujours faire venir des investisseurs étrangers pour éviter les problèmes de déséquilibre des échanges. Ça, c'est la première raison, qui est une raison de fond, parce que c'est à cette époque-là, 82-83, que la gauche socialiste, pour l'essentiel, a renoncé au changement. Et nous sommes toujours dans ce schéma intellectuel. La gauche reste sur cette conception qu'on ne peut rien faire face à l'évolution économique internationale. La deuxième raison, elle est plus politicienne. La première raison est un vrai débat politique. La deuxième raison, cette fois-ci, est un débat de politique politicienne minable. Parce que, sur les fonds de pension, le calcul qui est fait finalement par un certain nombre de responsables socialistes, pas tous, parce que beaucoup de, je dirais même la majorité des militants socialistes sont opposés aux fonds de pension, mais plutôt dans les sphères gouvernementales. L'idée est la suivante, il va y avoir réellement beaucoup plus de retraités à payer grâce à l'allongement de l'espérance de vie. Pour payer ces retraites, il faudrait augmenter les cotisations, et les cotisations des salariés et les cotisations patronales. Eh bien, un certain nombre de responsables gouvernementaux n'ont pas envie de heurter ni les salariés et encore moins les milieux patronaux. Et se sont dit, ben, après tout, comme la conjoncture boursière ces dernières années est positive, on va mettre en place des fonds de pension parce que au lieu de financer les retraites par une augmentation des cotisations, on va les financer par une augmentation de la bourse. Mmh. Donc c'est un calcul totalement politicien et d'ailleurs qui s'avère inexact quand on voit que les bourses baissent depuis un certain temps et que sur le long terme, les bourses mondiales, on n'a pas le temps de développer ce point, mais que les bourses mondiales sont orientées structurellement à la baisse. Donc, petit calcul politicien et erreur économique.
Diable, encore une fois, rien de rassurant, rien de très positif, on pourrait dire, mais en tous les cas, je vous remercie quand même de nous avoir apporté cette image un peu différente de ce qu'on entend d'habitude sur la bourse. Merci donc de nous avoir donné de votre temps. Vous pouvez nous écrire au AligreFM, émission des sous et des hommes, 42 rue de Montreuil, 75 011 Paris. Et nous nous interrogerons la semaine prochaine sur qu'est-ce que la richesse avec Patrick Viveret qui a remis un rapport au ministre Asquette.